VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 13 avril 2021. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. La justice militaire du Burkina Faso a mis en accusation l'ancien président Blaise Compaoré et des proches pour l'assassinat de Thomas Sankara. Au Mali, l'ex-chef rebelle Sidi Brahim Ould Sidati a été assassiné ce matin à Bamako. L'armée tchadienne affirme avoir mis en débandade les rebelles qui ont lancé une incursion dimanche à partir de la Libye. En RDC, au moins 10 morts après 2 jours de violence à Goma. Les autorités américaines ont recommandé une pause dans l'utilisation du vaccin anti-Covid Johnson & Johnson. Après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Burkina Faso, le tribunal militaire a décidé de la mise en accusation de l'ex-président Blaise Compaoré pour attentat à la sûreté de l'État et complicité d'assassinat dans l'affaire Thomas Sankara. Une quinzaine de personnes, dont son ancien bras droit Gilbert Diendéré, devront comparaître devant le tribunal militaire. Le point avec Lamine Traoré à Ouagadougou.
L'ancien président Blaise Compaoré a été mis en accusation mardi matin par la justice militaire. Selon la décision judiciaire, il existe assez de charges contre l'ancien homme fort ayant dirigé 27 ans durant le Burkina. Blaise Compaoré, qui est poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et recel de cadavres, devra se présenter devant le tribunal pour son procès. Le tribunal a décidé d'ailleurs de maintenir le mandat d'arrêt international contre Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014 et de tous ceux qui sont à l'étranger. Le tribunal maintient aussi le mandat de Yassine Kafando, poursuivi pour assassinat et attentat à la sûreté de l'État. Il est le présumé chef du commando qui a procédé à l'assassinat de Thomas Sankara et 12 autres de ses compagnons le 15 octobre 1987. Lui aussi est accusé dans cette affaire, le général Gilbert Diendéré, fidèle de Blaise Compaoré. L'homme purge une condamnation de 20 ans déjà dans la prison militaire dans le cadre du coup d'État de septembre 2015. Dans ce dossier Sankara, 14 personnes sont renvoyées devant la justice. Le tribunal militaire a ordonné la mise en détention de toutes les personnes dont les charges ont été confirmées, même si la date du procès n'a pas encore été fixée. Cependant, il n'y aura pas de procès pour 5 autres personnes qui étaient citées dans l'affaire, mais qui sont décédées. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Un des principaux chefs des ex-rebelles du nord du Mali, Sidi Brahim Ould Sidati, président de la coordination des mouvements de l'Azawad, a été assassiné par balle ce matin à Bamako. Il avait signé l'accord de 2015 entre le gouvernement et les rebelles. Le point avec Mohamed Danioko sur place.
Triste et profondément triste d'entamer ce mois béni du Ramadan avec l'assassinat de notre président, chef de la délégation au comité de suivi de l'accord de paix, M. Sidi Brahim Ould Sidati. C'est par ce poste sur son compte Facebook que Ataï Ag Mohamed, membre du bureau de la coordination des mouvements de l'Azawad, a annoncé la mort de celui qui était aussi son président à la CIMA. Une information qu'il nous confirmera plus tard au téléphone. Un peu plus tôt, sur les réseaux sociaux, l'on apprenait la tentative d'assassinat qui avait visé Ould Sidati et qui avait ensuite été admis dans un hôpital de la place. Ce que l'on sait pour le moment, il aurait, selon des sources, succombé à ses blessures. Cet assassinat intervient après la création entre la CIMA et la plateforme, tous deux groupes armés, signataires de l'accord de paix, d'un cadre stratégique permanent le 6 avril dernier qui devait travailler à la mise en œuvre rapide de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Mohamed Danioko, Bamako, pour VOA Afrique.
Au Niger, les autorités ont suspendu jusqu'à nouvel ordre les activités de l'ONG française Acted à Difa, proche du Nigeria. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon Issa Lamine, le gouverneur de cette région du sud-est du Niger, une enquête est ouverte pour clarifier la situation de l'ONG. Pour l'instant, tous les véhicules d'Acted doivent être immobilisés selon une lettre du gouverneur qui ne donne aucune explication sur les raisons de cette suspension de l'agence d'aide à la coopération technique et au développement. Selon une source au gouvernorat ayant requis l'anonymat, l'ONG est accusée de mener des actions qui ne sont pas conformes à sa mission dans la région de Difa, sans plus de précision. ACTED, présente au Niger depuis 2010, n'avait pas encore réagi mardi à cette décision. C'est la première fois que les autorités nigériennes suspendent les activités d'une ONG internationale dans la région de Diffa, épicentre d'une grave crise humanitaire avec la présence de 300 000 réfugiés du Nigeria et de déplacés fuyant les atrocités des djihadistes.
Une cinquantaine d'ONG sahéliennes et internationales plaident pour une nouvelle approche sécuritaire au Sahel, accordant la priorité à la protection des civils et non pas seulement à l'action militaire, et comprenant le dialogue avec les djihadistes. La coalition citoyenne pour le Sahel appelle à un réagencement des priorités. Nous y reviendrons dans les dossiers du jour. L'élection présidentielle au Bénin, dont les résultats provisoires sont attendus ce soir, a été marquée par une faible participation, ont affirmé les missions d'observation internationale lors d'une conférence de presse à Cotonou. L'opposition avait appelé les électeurs au boycott du scrutin. La réélection dès le premier tour du président Patrice Talon contre deux candidats peu connus est assurée. Le porte-parole du gouvernement tchadien a déclaré que les rebelles qui ont lancé une incursion dimanche dans le nord du pays à partir de la Libye sont en débandade. Cette incursion a coïncidé avec la tenue du scrutin présidentiel. Rosine Mounezero nous en dit plus.
Ces rebelles sont fixés et traités par l'aviation de l'armée de l'air tchadienne et sont en débandade et pourchassés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité, a rapporté le porte-parole du gouvernement, assurant que la situation est entièrement sous contrôle. Le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, un groupe politico-militaire tchadien à dominante korane, une ethnie saharienne, a revendiqué dimanche soir les prises de plusieurs garnisons, notamment Our et Zorké, tombées sans résistance selon lui. Son chef Mahamat Mahdi Ali a appelé dimanche les Tchadiens à maintenir la dynamique de la pression sur la dictature et à aider les combattants du FATH à libérer leur patrie. Dans le massif du Tibétsi et à la frontière avec la Libye, des rebelles affrontent régulièrement l'armée tchadienne. En février 2019, venus de la Libye, ils avaient été stoppés par des bombardements français. En février 2008, une attaque rebelle avait atteint les portes du palais présidentiel avant d'être repoussée grâce au soutien français.
Des affrontements tribaux dans la région du Darfour au Soudan ont forcé près de 2000 personnes à traverser la frontière pour rejoindre le Tchad la semaine passée. Une série d'affrontements meurtriers a débuté le 3 avril, faisant au moins 144 morts. 10 personnes ont été tuées dans des violences hier et aujourd'hui à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, où les autorités ont interdit les manifestations après des mouvements de colère contre les massacres de civils. Ce matin, le bilan s'est alourdi à 10 morts et 34 blessés dans les échauffourées entre un groupe d'hommes armés et les forces de l'ordre, a indiqué le gouverneur du Nord Kivu, Charlie Kasivita, qui a signé un arrêté interdisant de manifester dans la province. Des experts des droits humains mandatés par l'ONU appellent les autorités burundaises et tanzaniennes à respecter les droits des réfugiés burundais qui font état d'enlèvements, de tortures et de retours forcés. Ces experts font écho aux informations selon lesquelles des agents burundais sont infiltrés dans les camps de réfugiés en Tanzanie pour repérer les opposants et les faire arrêter. L'Égypte réclame 900 millions de dollars de dédommagement après le blocage du canal de Suez fin mars et le porte-conteneur qui en est à l'origine a été saisi, rapporte le quotidien gouvernemental Al-Aram. Hier soir, le chef de l'autorité du canal a fait état de négociations pour le préjudice subi quand l'Ever Given s'est coincé près d'une semaine en travers du canal.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le procès du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd est entré dans une nouvelle phase ce mardi avec la convocation du premier témoin de la défense. Après deux semaines consacrées à l'exposé des faits par l'accusation, L'avocat du policier Derek Chauvin a fait venir à la barre un agent à la retraite qui avait interpellé Floyd un an avant le drame. Les autorités sanitaires américaines ont recommandé une pause dans l'utilisation du vaccin anti-Covid Johnson & Johnson. Elles vont enquêter sur des cas graves de caillots sanguins chez plusieurs personnes. Les détails avec Mohamedou Oumfa.
Une personne est morte d'une thrombose sanguine et une autre se trouve dans un état critique. 6 femmes, dont l'âge varie de 18 à 48 ans, ont enregistré des événements thromboemboliques graves. Toutes ces personnes ont en commun d'avoir reçu l'injection du vaccin de Johnson & Johnson. Alors, l'Agence américaine des médicaments, la FDA, a décidé d'enquêter pour établir si ces cas graves ont été causés par le vaccin. Les centres américains de lutte et de prévention des maladies se réuniront mercredi afin d'évaluer ces différents cas. L'Agence américaine des médicaments passera en revue leurs conclusions. Tant que cette procédure est en cours, nous recommandons une pause, a affirmé la FDA, précisant agir par souci de précaution. Pour sa part, Johnson & Johnson a indiqué ce mardi qu'il avait pris la décision de retarder le déploiement de son vaccin en Europe. La Maison-Blanche a fait savoir que la suspension de l'utilisation de Johnson & Johnson n'aura pas d'impact important sur la campagne de vaccination aux États-Unis. Selon Jeff Zients, coordinateur de la lutte contre le COVID-19, ce vaccin représente moins de 5% des doses administrées aux États-Unis.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le Français Claude Leroy démissionne de son poste de sélectionneur du Togo. Il n'est pas parvenu à qualifier les éperviers pour la prochaine CAN qui aura lieu au Cameroun en janvier 2022. D'où son départ, nous dit-il au téléphone.
C'est légitime d'assumer cette contre-performance et de démissionner.
Claude Leroy, recordman de participation à la CAN avec 9 éditions disputées, était arrivé au Togo en 2016. 5 ans après, il se dit satisfait de son travail.
On a changé de génération et une génération avec des joueurs de dimension mondiale. Il y a des bailleurs avec Akakpo, Akassa, Akpé. C'est une génération qui arrive en fin de parcours. Il a fallu tout changer, donc tout rebâtir avec beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de jeunes joueurs locaux.
Avant le Togo, Claude Leroy a dirigé 5 sélections africaines en 8 épisodes, 2 fois le Cameroun, 2 fois la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Ghana et le Congo. Souvent surnommé le sorcier blanc, Leroy, 73 ans, ne compte pas s'arrêter et veut encore entraîner.
J'ai fait cette annonce hier et depuis cette annonce, il y a déjà des coups de téléphone qui sont arrivés, donc je réfléchis.
Des coups de téléphone de quel pays, si ce n'est pas indiscret?
Non. Vous savez très bien que j'ai toujours cultivé la plus grande discrétion surtout.
Mais vous personnellement, coach, est-ce que vous comptez entraîner encore?
Oui, bien sûr. C'est pas forcément tout de suite. Je vais peut-être prendre un peu de repos. J'ai mon livre qui sort le 5 mai, donc je vais m'occuper de tout ça avec la maison d'édition.
Sur l'Afrique, le football africain?
Oui, c'est sur ma carrière qui s'appelle le sorcier blond.
Claude Leroy, le désormais ancien entraîneur du Togo. On connaîtra ce soir les 2 premiers qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions en Europe. Le Paris Saint-Germain peut éliminer le champion en titre, le Bayern Munich, en quart de finale retour. Et pour cela, les Parisiens se doivent de confirmer l'exploit de l'aller remporter 3-2. Dans l'autre quart de finale retour, la mission s'avère compliquée pour le FC Porto, battu 2-0 à l'aller par Chelsea. NBA, porté par Joel Embiid, Philadelphie s'est imposé à Dallas pour reprendre la tête à l'Est. Pendant que Utah, leader à l'ouest, chutait face à Washington, le point avec Bagassi Koura.
Oui, le Camerounais a réussi 36 points déterminants dans le succès des Sixers à Dallas, 95 à 113. Memphis a battu Chicago, 101 à 90. Et San Antonio s'est imposé à Orlando, 120 à 97. Les Los Angeles Lakers ont été défaits par les Knicks, 111 à 96. Et puis Steph Curry rentre un peu plus dans l'histoire. Il lui fallait inscrire 19 points pour dépasser l'illustre Chamberlain, ses 17 783 points sous le maillot des Warriors. Curry l'a fait pour finir avec 53 au total. Une belle victoire face à Denver, 116 à 107. C'est donc la septième fois que Curry réussit un match à au moins 50 points. Utah a tout tenté dans le Money Time, mais les Wizards ont tenu bon pour s'imposer 125-121.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. La coalition citoyenne pour le Sahel, créée en 2020 par des ONG et associations des pays sahéliens, appelle à une nouvelle approche sécuritaire dans la région. Elle veut accorder la priorité à la protection des civils et non pas seulement à l'action militaire et inclure le dialogue avec les djihadistes. Eric Manirakiza a joint à Bamako la présidente de l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, Assitane Diallo, membre de cette coalition.
Au statu quo actuel qui est l'approche tout militaire, prendre en compte par exemple la protection de la population civile, mais aussi mettre en avant la voix de cette population pour qu'elle puisse exprimer leurs besoins et puisse participer de façon active à leur propre résilience. Ça, c'est un aspect. Ce que nous proposons dans le rapport, c'est 4 piliers essentiels d'action. Mais ça, c'est le premier pilier. Et moi, je dirais le point de départ de tout, inclure la protection de la population civile comme élément clé dans l'arsenal qui existe déjà.
Quels sont les autres piliers?
La protection des civils, la promotion d'une stratégie politique, dont une meilleure connaissance des causes profondes de la crise dans le Sahel central, qui comprend donc nos pays, le Mali, le Niger et puis le Burkina. Et puis l'élément réponse adéquate à l'urgence humanitaire et la lutte contre l'impunité à toute instance et à tous les niveaux. Donc c'est les 4 piliers qui normalement vont guider toute action par rapport à cette nouvelle approche sécuritaire, avec des messages concrets, des suggestions et des recommandations à l'endroit donc des autorités locales, mais aussi des décideurs dans la sous-région et parmi nos partenaires internationaux.
Est-ce que pour vous, l'approche militaire a montré ses limites?
On est même allé plus loin, on a dit que l'approche militaire a échoué tel que ça a été conçu. Parce que c'est difficile de mesurer les progrès acquis par l'approche telle que mise en œuvre. Parce qu'on voit un peu trop les effets néfastes par rapport aux acquis. Les attaques n'ont pas diminué et la situation de la population s'empire de jour en jour.
Vous reconnaissez quand même que l'approche militaire a empêché les terroristes de s'emparer de tout le Sahel?
Nous disons que ce n'est pas l'échec même de la sécurité militaire, mais c'est l'approche qui est limitée. Mais on reconnaît qu'il y a eu des acquis, il y a eu des progrès à améliorer. Donc ce que vous suggérez comme acquis est reconnu dans les 4 piliers, c'est-à-dire que ce qui a été fait jusqu'à présent est d'utilité, a été d'utilité salvatrice pour la population du Sahel, mais qui a eu d'autres dommages collatéraux qu'il faut gérer. Sur la base de ce que nous proposons dans la coalition citoyenne, nous voulons que cette protection civile soit plus simple et plus connue de la population, afin que la population soit partie prenante de sa propre protection civile.
Création d'une radio pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Radio Jeunesse Sahel est le nom de ce nouveau média implanté à Ouagadougou qui diffusera des programmes pour le compte du G5 Sahel. Il s'agit d'une initiative des chefs d'État des pays concernés. Notre correspondant au Burkina Faso, Lamine Traoré, nous en dit plus.
La radio Jeunesse Sahel est ainsi lancée. Elle va émettre à partir de Ouagadougou et couvrira l'ensemble des pays du G5 Sahel. Le projet est porté par l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. Oria Van de Wege, représentante de l'OIF,
L'idée de cette radio, c'est vraiment de donner aux jeunes des valeurs sur la citoyenneté, le vivre ensemble, des valeurs positives pour combler l'espace qui peut être parfois récupéré par toutes sortes de mouvements. On a parlé de radicalisme, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi parfois le désespoir dû au chômage. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent mener les jeunes sur un chemin qui n'est finalement pas le meilleur. La nouveauté dans le projet de Radio Jeunesse Sahel, c'est vraiment l'aspect transnational. C'est cette idée de dire qu'il y a une région qui est le Sahel où les jeunes, malgré le fait de parler des langues différentes, d'avoir des milieux différents, des cultures différentes, partagent des préoccupations qui sont quand même parfois très similaires. La création de la radio s'est appuyée sur une vaste consultation de la jeunesse.
Cette radio est une volonté des chefs d'État du G5 Sahel. Les autorités pensent que cette radio aura un impact réel dans la lutte contre le terrorisme. Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères du Burkina.
L'idée de cette radio, c'est de dédier des programmes à la jeunesse, mais qui sont des programmes de paix, des programmes, de cohésion sociale, des programmes de vivre ensemble. Ce sera donc une façon de lutter contre le radicalisme et l'extrémisme religieux.
Lionel Bilgo est analyste politique, spécialiste de la communication.
L'impact d'un tel instrument de communication pourrait permettre justement de mettre en place un échelon de dialogue entre les populations et les programmes qui seront diffusés à la radio. Je pense qu'en temps de crise, permettre l'expression de nos douleurs, de nos peines, mais aussi donner de l'espoir à travers justement des discussions, des échanges sur des thématiques constructives, c'est très important. J'ai souvent dit que la lutte contre le terrorisme ne se gagne pas seulement que par les armes. Je pense qu'on a à recréer un socle social solide, à recréer les liens entre populations et surtout à donner l'estime de soi et le sentiment d'appartenance aux populations de certaines localités. J'espère qu'il y aura la collaboration avec d'autres radios qui existent déjà et qui font des programmes aussi en ce sens qui ne sont pas très mal.
Les programmes de Radio Jeunesse Sahel seront ainsi orientés vers la jeunesse et l'ensemble des populations dans la lutte contre l'insécurité, le chômage des jeunes, l'ignorance et permettra un brassage culturel, facteur de tolérance et de vivre ensemble. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'état de la démocratie en Afrique. Les dernières élections au Tchad et au Bénin qui ont vu l'absence des principaux opposants ont suscité un débat sur le recul démocratique sur le continent. Plusieurs analystes évoquent une volonté de confiscation du pouvoir par les régimes en place. Entre modifications constitutionnelles, arrestations ou exil d'opposants ou tout simplement leur disqualification dans les processus électoraux, la démocratie est-elle sous attaque, y compris dans des pays qui étaient jusqu'ici cités un exemple. Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Mali, toutes les festivités et manifestations populaires sont interdites depuis vendredi. Les autorités ont aussi décidé de fermer les lieux de loisirs pendant 2 semaines en raison d'une progression de la COVID-19. Pendant ce temps, la campagne de vaccination lancée le 31 mars se poursuit dans plusieurs centres sanitaires du pays. Notre correspondant Mohamed Danioko s'est rendu dans l'un de ces centres.
Il est 10h au PMI de Badalabougou. L'équipe de vaccination contre le Covid est déjà à pied d'œuvre. Une vingtaine de personnes venues se faire vacciner volontairement ont reçu leur dose du vaccin AstraZeneca. Docteur Moulher Baba, médecin-chef, PMI Badalabougou.
Les gens commencent à adhérer de plus en plus. Le début a été un peu difficile, mais vraiment, avec la sensibilisation, on commence à voir le maximum de personnes.
Le centre qui a débuté ses opérations de vaccination le mardi 6 avril est, en une semaine, à quelques 300 personnes vaccinées. Le personnel soignant, les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes vivant avec une comorbidité sont les cibles de cette première campagne de vaccination. Composée majoritairement de personnes âgées, ces volontaires estiment que la vaccination est la seule solution pour prévenir la maladie et invitent la population à se faire vacciner. Amadou Savadogo et Boubacar Menta sont des volontaires.
J'estime que tout bon citoyen doit se prévenir contre cette maladie et prévenir les autres. Parce qu'en faisant le vaccin, non seulement on se protège, on protège aussi les autres.
On demande à toute la population malienne de se sensibiliser pour venir faire la vaccination. Vraiment, tout ce que les gens disent là, c'est pas la réalité. Le vaccin est très important pour la population malienne.
Avec l'explosion récente des cas de Covid, atteignant la barre record des 400 cas en une journée et les fake news véhiculées sur les réseaux sociaux pour dissuader les volontaires à la vaccination, Dr Moulher Baba et son équipe optent pour une sensibilisation de proximité pour atteindre le résultat actuel.
C'est un très très bon signe parce qu'il y a eu trop de spéculations sur le vaccin. Nous, on est en train de faire le vaccin avec l'AstraZeneca. Bon, avec les réseaux sociaux, les gens sont souvent démotivés, mais on a fait une sensibilisation au niveau de notre commune, la commune 5, et plus particulièrement, moi, je suis à Badlabougou, dans les quartiers de Badlabougou. On a sensibilisé les personnes dans les mosquées, les lieux publics, pour qu'ils comprennent ce que c'est la vaccination, son importance. Et du coup, on a pu les détourner des mauvaises rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux.
64 centres de santé communautaires, 6 centres de santé de référence et l'ensemble des hôpitaux de Bamako sont mobilisés pour la réussite de cette première campagne de vaccination. Le Mali, pays d'environ 20 millions d'habitants, a déclaré officiellement plus de 11 300 cas de contamination et 400 cas de décès. Ces derniers jours, les nouveaux cas de Covid sont repartis à la hausse. Le gouvernement a aussi décidé de procéder à une nouvelle distribution massive et gratuite de masques, de faire respecter scrupuleusement son port obligatoire en public, ainsi que d'interdire les rassemblements de plus de 50 personnes. Il entend accélérer l'acquisition des nouvelles doses de vaccins et intensifier la campagne de vaccination. Mohamed Danyoko, Bamako, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Guinée comme ailleurs, le ramadan s'annonce difficile pour les musulmans en raison de la pandémie de Covid-19. Les Guinéens se plaignent d'une vie chère et avoir les trois repas reste un rêve pour plusieurs ménages, rapporte notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que dans 2 ans, la Guinée va dépasser Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nos mamans n'arrivent pas à préparer maraboulaye.
C'est une vidéo devenue virale sous la toile, dans laquelle on peut voir un député de la majorité s'adresser au Premier ministre guinéen. Kassori Fofana venait de prononcer son discours de politique générale et c'est pendant les exercices de questions-réponses que le député Oumar Sidi Bé l'interpelle.
Le marché coûte énormément cher. Je vous assure, la fois dernière, ma femme m'a donné, il dit, moi-même, j'ai donné 100 000, il dit, non, comme tu aimes manger, Conco, il va payer toi-même. Je suis parti, on me dit, un seul Conco, 80 000 francs. Comment je vais payer le reste des choses? Monsieur le Premier ministre, Voltaire ne vient pas dans le conteneur, monsieur le Premier ministre.
Le Premier ministre guinéen était face au député à moins d'une semaine du début du ramadan. La réaction du député de Dixine en dit long sur la cherté de la vie et sur un mois de jeûne sur fond de Covid-19 pour la deuxième année consécutive en Guinée.
Ma condition actuelle est précaire en ce sens où j'ai un revenu inférieur par rapport à mes dépenses. Je ne pourrais pas supporter mes dépenses parce que les choses sont chères et ce que je gagne est moins.
Regarde l'huile rouge qu'on achète ici. Le bidon de 20 litres, actuellement c'est 200 combien ? 240, 250, 280. Et pourtant, ça ne vient pas de l'extérieur. C'est chez nous, ici. Allez-y au marché. Demandez le riz du pays. Le kilo à l'heure, là, c'est 7500. Ça vient d'où? C'est pas chez nous, ici. Hein? Comparativement au riz, au riz blanc qu'on envoie, le kilo à 5000 et le riz du pays, 7500. Regardez un sac. Demandez le prix d'un sac de charbon. Qu'on prend à l'intérieur, ici, là. Qu'on ne dédouane même pas. Un sac actuellement à Conakry, c'est 40 000.
Cette année, les ménages pratiquants doivent dépenser plus d'argent pour faire la popote. Les prix de plusieurs denrées ont augmenté de plus de 10%. Par exemple, un kilo de viande coûte 55 000 francs guinéens, soit plus de 30% de plus du prix en 2020 à la même période.
Ce qu'on pouvait acheter, on ne peut plus l'acheter comme il faut. On est obligé de changer de manière de manger. C'est-à-dire, on ne peut pas nous permettre d'acheter les mêmes choses que l'année dernière parce qu'il est impossible, avec le même montant, d'avoir les mêmes choses cette année.
Selon les estimations de la Banque mondiale, la baisse du bien-être des ménages pourrait se situer entre 7 et 10% par rapport à la situation observée avant la crise. Ceci pourrait avoir la conséquence, selon la même source, d'augmenter fortement le nombre de personnes entrant dans la pauvreté ou se situant juste au-dessus du seuil de pauvreté. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.